Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jocelyne Moussa Oupondé.
Un mort et des blessés enregistrés après l'enrôlement de Salomon Idi Kalonda au centre d'identification des électeurs situé dans l'enceinte de l'école Mambolelo à Kindu. À l'origine de ces incidents, les jets de pierre par des jeunes n'ayant pas digéré la présence de Idi Kalonda dans leur quartier. Mini-sommet ce vendredi à Addis Abeba sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Le retrait immédiat de tous les groupes armés des zones occupées d'ici le 30 mars 2023 et un cessez-le-feu immédiat ont été décidés à l'issue de cette réunion. Notre invité, c'est Benjamin Assimoni, point focal de la campagne dénommée « Élections citoyennes » lancée dans la ville de Béni hier. C'est pour emmener la population à voter utile à travers des choix judicieux lors des prochaines élections générales prévues en décembre 2023. Bonsoir à tous. Un mort et quelques blessés graves. Bilan des actes de violence cet après-midi au centre d'enrôlement de l'école Mambolelo, quartier Bassoko, dans la ville de Kindu. Des jeunes ont lancé des pierres à la foule et contre le conseiller spécial de Moïse Katumbi, à M. Salomon Idi Kalonda, après qu'il se soit enrôlé. Ces jeunes n'ont pas digéré le fait que ces messieurs se soient fait enrôler dans leur quartier. Selon les députés Mike Mukebai de Ensemble pour la République, présents lors des faits, ces jeunes sont des élus d'EPS et manipulés par le gouverneur intérimaire de province, Afani Idriss Mangala. On l'écoute.
Nous sommes partis du siège provincial de notre parti pour le quartier Bassoko où devait s'enrôler le spécial Salomon Escadilla. Chemin faisant, nous avons rencontré des jeunes clairement identifiés des l'UDPS qui nous ont attaqués. Comme la procession était longue, nous avons assez résisté jusqu'au centre d'enrôlement Mamboléo. Et là, le spécial Salomon Escadilla s'est enrôlé. C'est au sortir du bureau d'enrôlement quand il a exhibé sa carte d'enrôlement que nous avons vu de meutes de jeunes identifiés UDPS sortir de partout et nous attaquer. Et nous avons enregistré plus de 20 blessés et 2 morts. Et depuis que nous sommes revenus, nous avons établi la certitude que l'autorité provinciale était derrière ces attaques-là. C'est clairement établi. Nous disons toute notre indignation, ce que nous craignons que pendant la campagne, que ce soit pire.
De son côté, le gouverneur intérimaire du Maniema rejette en bloc ces accusations.
Oui, il y a eu des morts, effectivement, ce que nous déplorons et nous condamnons avec la dernière énergie. C'est moi-même qui ai intervenu pour faire sortir Salomon au niveau de la paroisse de Bassoko. Donc, l'attitude qui vient de se manifester aujourd'hui présage qu'il y a de l'intolérance ou soit les acteurs politiques doivent éviter les débordements. Parce que vous ne pouvez pas être accompagné des militants que vous ne maîtrisez pas. Alors, s'il y a des militants qui débordent, qui profèrent des menaces, qui faire des messages hostiles et que les autres peuvent réagir autrement et voyez là où on arrive. Et je suppose aussi que ce soit les membres des pouvoirs, que ce soit ceux de l'opposition, notre souci est qu'on aille aux élections dans un climat apaisé. Nous ne sommes pas dans la période de campagne, non. On ne peut pas accepter qu'on continue à endeuiller la ville dans une situation pareille. Ce n'est pas pour la première fois que Salomon arrive dans la ville de Kindu. Je lui laisse la tribune, il fait ses meetings et qu'on sort. Maintenant là, comment moi, gouverneur, je peux organiser un coup contre lui? Il me gêne en quoi?
Ce dossier est signé Florence Kizalunga. À Goma, on observe un engouement réel de la population pour se faire enrôler en vue des prochaines élections. Dès le lancement de cette opération hier jeudi, plusieurs personnes se sont mobilisées pour remplir ses devoirs civiques. Un des signaux palpables de cette réalité, c'est que sur les réseaux sociaux, de nombreux citoyens partagent fièrement leurs cartes déjà reçues et invitent leurs amis à faire de même. Tout compte fait, c'est un sentiment de satisfaction pour ceux qui ont déjà obtenu leur carte. Quelques impressions dans ce reportage de Rosalie Zawadi.
Là, je vais dormir calmement, donc je veux faire de bons rêves.
Cette joie de Madame Edwige Yalala, c'est parce qu'elle vient d'avoir sa nouvelle carte d'électeur. C'est pour elle une façon de montrer son attachement au Congo.
Nous sommes là à l'attente des élections prochaines. Alors, comme Congolaise, patriote aussi, je ne devais que tout faire pour récupérer la carte et être prête à élire. Parce que moi, je me suis dit, je serai à l'aise après avoir retiré la carte de la CENI. Là, maintenant, je peux tout faire. Je peux me promener, je peux faire mon travail calmement, sans souci. C'est vraiment une dette. Celui qui aime ou celle qui aime son pays, c'est une dette.
Après une demi-journée au centre d'enrôlement, Maître Doudou Katako Christine est fière d'avoir rempli ses devoirs.
Personnellement, je suis arrivée ici vers 11h. Il y avait des gens qui m'ont précédé, puis j'ai attendu à 17h, j'ai eu ma carte.
Comme Congolaise, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir cette carte?
Vraiment, c'est une fierté. Là, je me sens Congolaise.
D'autres habitants du Nord Kivu se trouvant dans des zones inaccessibles à cause des défis liés à la sécurité ou aux infrastructures gardent espoir de recevoir leur carte pour pouvoir participer aux prochaines élections. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Au Sud Kivu, le docteur Denis Mukwege dit responsabiliser les jeunes Congolais pour prendre leur destin en main. Le prix Nobel de la paix 2018 s'est exprimé hier jeudi à Bukavu au cours d'une conférence de presse à l'université évangélique en Afrique. La conférence avait porté sur la contribution de l'Église à la promotion de la santé. Docteur Mukwege tentait de répondre à la préoccupation sur son éventuelle candidature à la présidentielle 2023. C'est vendredi 17 février 2023, c'est la date de l'expiration de la prolongation de 25 jours pour l'opération d'enrôlement dans les premières aires opérationnelles de la CENI, y compris la province du Kwilu. Cependant, après une tournée dans certains centres d'inscription à Bandunduville, il s'observe encore des très longues files d'attente. Certains requérants désespérés ainsi que des observateurs demandent une fois de plus à la CENI de rallonger cette opération afin que tout le monde ait l'occasion de remplir son devoir civique et obtienne sa carte d'électeur. En réaction, ces assurances du premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le requérant non encore enrôlé, se trouvant dans les centres d'inscription, vont toujours se faire enrôler. Bienvenue Ilanga est arrivé à Bandundu hier jeudi pour s'enquérir personnellement de la situation de l'opération d'enrôlement qui doit se clôturer ce vendredi 17 février 2023 dans la première aire opérationnelle. À l'occasion, il a fait savoir qu'une courte durée sera accordée aux retardataires pour qu'ils obtiennent aussi leur carte d'électeur. Un mini-sommet sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC s'est tenu ce vendredi à Addis Abeba. C'est en marge du sommet de l'Union africaine qui commence demain dans la capitale éthiopienne. La réunion a été présidée par João Lourenço, chef de l'État de l'Angola, aux côtés du président burundais Évariste Ndayishimiye, en même temps président en exercice de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est. Présents aussi à cette réunion, les présidents Paul Kagame du Rwanda, Félix Tshisekedi de la RDC, Sulu Samia de la Tanzanie et celui du Kenya Williams Ruto. L'Ouganda et le Soudan du Sud étaient représentés. À l'issue de cette réunion, quelques décisions ont été prises, notamment le retrait immédiat de tous les groupes armés d'ici le 30 mars 2023 des zones occupées, un cessez-le-feu immédiat obligatoire pour tous les groupes armés et la réinstallation immédiate des personnes déplacées internes. Par ailleurs, les chefs d'État ont affirmé la présence des réfugiés congolais dans les républiques du Rwanda et de l'Ouganda et ont recommandé le rapatriement en RDC. Michel Kefindangoe.
Dans son allocution, le président angolais a déploré la détérioration de la situation sécuritaire sur terrain à la suite du refus du M23, appuyé par le Rwanda, de se retirer des zones occupées comme l'exigeait le sommet de Luanda. Pour lui, la discussion de ce vendredi devrait tourner autour de la détermination des zones de cantonnement des troupes du M23, la préparation de ces zones et le financement des opérations. Pour sa part, le président Évariste Ndayishimiye, tout en déplorant la reprise des combats par le M23, ce qui a entraîné la riposte des FARDC, a exhorté ses pairs à trouver des solutions définitives à cette situation. Le président en exercice de l'EAC a reconnu la crise de confiance d'une certaine opinion congolaise envers les forces sous-régionales. Le président burundais explique la détérioration de la situation sur terrain par le non-respect des engagements par le M23 et le manque d'un mécanisme de suivi et évaluation qui fait l'objet de cette réunion. Cet ordre du jour n'a pas suscité des réactions des autres chefs d'État qui ont poursuivi les vraies discussions à huis clos.
Autre nouvelle, l'inspection générale des finances appelle à la révisitation ou résiliation du contrat minier conclu entre la RDC et la Chine depuis 2008. C'est là après avoir mené une enquête sur l'exécution de ce contrat. Ce contrat et celui ayant conduit à la création de la sino-congolaise des mines, Sicomine, chiffrée à plus de 6 milliards de dollars américains. Il porte sur l'échange des minerais contre des infrastructures. D'après l'IGF, les minerais extraits du sous-sol peuvent être estimés à 10 milliards alors que les infrastructures construites par la Chine ne dépassent pas les 800 millions de dollars. Plus de détails avec Cynthia Bachizi Nabizana.
La convention entre la RDC et la Chine prévoyait que les entreprises chinoises investissent 3,2 milliards de dollars américains dans une mine de cuivre cobalt et 3 milliards de dollars supplémentaires dans des infrastructures financées par les revenus de la mine. Mais le volet mine semble avoir pris le dessus, à en croire les conclusions du rapport de l'IGF qui juge le taux de réalisation des infrastructures très faible. En outre, les entreprises chinoises concernées bénéficient d'une exonération totale pour faciliter le remboursement de l'argent prêté par les Chinois aux Congolais. Mais il y a une opacité totale sur cette question, selon l'IGF qui note que ce régime fiscal a fait échapper au trésor public des sommes d'argent colossales en termes de paiement d'impôts. Les conclusions du rapport de l'IGF confortent les critiques faites par le président de la République sur ce contrat. Nous sommes heureux d'être amis avec les Chinois, mais le contrat a été mal négocié, très mal. Aujourd'hui, la RDC n'en a tiré aucun bénéfice. Il n'y a rien de tangible, aucun impact positif pour notre population. Déclaré en janvier dernier, le président Tshisekedi lors d'une interview accordée aux médias américains Bloomberg en marge du forum de Davos.
Le porte-parole de l'ambassade de Chine en RDC a commenté les conclusions du rapport de l'IGF. Nous avons le regret de constater que le rapport, dont les contenus est plein de préjugés, ne correspond pas à la réalité, ne peut être considéré comme crédible et n'a pas de valeur constructive, a réagi l'ambassade de Chine via son porte-parole. En Ituri, 10 conducteurs des motos interpellés par la police, 3 blessés graves et 2 motos saisies. C'est le bilan des manifestations de ces deux derniers jours d'un groupe des jeunes conducteurs des motos-taxis dans la ville de Bounia. Il a été communiqué ce vendredi par le commandant urbain de la PNC. Ces conducteurs de motos-taxis dénoncent l'enlèvement des deux de leurs collègues lundi dernier à Mwanga, à 30 km au nord-ouest de Bounia. Selon la PNC, les jeunes en colère se sont livrés aux actes de pillage de biens de la population. Martial Kizabiamungu.
Mercredi et jeudi, des conducteurs de mototaxis en provenance du quartier Sayo ont pris en main manifesté sur les principales artères du centre-ville de Bounia pour dénoncer la prise en otage de 4 de leurs collègues par des hommes armés en Ngongo. Une mobilisation qui a perturbé les activités socio-économiques pendant quelques heures dans une grande partie de la ville. Les manifestations de jeudi ont été émaillées de quelques incidents. Selon la police, les manifestants ont pillé de biens de la population et ont également blessé quelques personnes. Colonel Abeli Mwangu, commandant ville de Bounia.
La police a interpellé des meneurs de 10 manifestations. Nous avons enregistré 2 blessés graves par arme blanche causés lors des échauffourées entre les manifestants et la paisible population.
Le président de l'association du taxi moto de l'Ituri, Atamoï, que nous avons contacté, n'a pas souhaité se prononcer sur ce sujet. Cependant, un des manifestants estime que leur action vise à pousser les autorités à retrouver mort ou vivant leurs collègues portés disparus. Notre objectif est qu'ils nous ramènent les corps de nos frères et qu'on les enterre ici à Bounia et que ça se termine par là. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, les manifestations vont se poursuivre. La police rassure que toutes les dispositions sont prises pour retrouver les deux jeunes pris en otage. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Des 2 à 30 années d'emprisonnement ferme, ce sont les peines qu'a demandé le commissaire du gouvernement nigérien dans le procès de la tentative du coup d'État 48 heures avant l'investiture du nouveau président élu Mohamed Bazoum à l'issue d'un procès fleuve au cours duquel les avocats des prévenus ont tout nié. Des avocats qui ont été jusqu'à qualifier la tentative de coup d'État de farce organisée par le pouvoir en place. Au Mali, le Conseil national de transition, organe législatif de la transition, se penche depuis ce 17 février sur la révision de la loi électorale. Le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, a convoqué cette session extraordinaire la veille seulement par décret. Elle débute ce vendredi et va durer au moins plusieurs jours.
L'invité.
Un vote utile pour instaurer la bonne gouvernance, c'est le slogan de la campagne dénommée Élections citoyennes lancée dans la ville de Beni samedi 11 février. Cette campagne a pour but d'emmener la population à voter utile, comme son nom l'indique, à travers des choix judicieux lors des prochaines élections générales prévues en décembre 2023. Comment va-t-elle se dérouler? Pour y répondre, nous recevons Benjamin Assimoni, point focal de cette campagne organisée par la jeunesse de Beni. Il s'entretient avec Guylaine Kassassia.
Benjamin Assimoni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le point focal de la campagne Élections citoyennes, une campagne que vous venez de lancer dans la ville de Beni. C'est avec quel objectif?
La campagne Élections citoyennes s'inscrit dans un objectif de conscientiser les potentiels électeurs de la région de Beni pour pouvoir s'approprier le processus électoral, le rôle d'observateur, d'agents électoraux, de témoins, d'électeurs. Et particulièrement dans la deuxième ligne d'objectif, nous voulons amener la population de Beni à cette fois-ci passer en tout cas à l'exercice des votes de manière réfléchie et rationnelle, parce que dans la rue, les commentaires et selon lesquels on ne connaît pas élire.
Peut-on dire que vous avez constaté des défis dans le processus électoral passé? C'est pourquoi vous avez initié cette campagne?
En tout cas, des énormes défis. Le premier, d'abord pour la ville de Beni, c'est que les élections se sont passées de manière discriminatoire. Donc, la ville de Beni a été écartée pour les élections présidentielles, par exemple. Et d'un autre côté, nous avons constaté qu'il y a eu des lamentations de la part des électeurs jusqu'à ce qu'aujourd'hui, comme conséquence, les différents sondages dans la rue font preuve de la réticence des populations d'envers le processus électoral, d'où il y a en tout cas un grand danger, celui de voir la ville de Beni être encore une fois représentée avec faible quantité des sièges. Comme ce fut depuis toujours, on n'a que 2 députés au niveau de la province et au niveau national. Et nous pensons que cette fois-ci, il faut qu'on travaille un peu sur la remise en confiance de la population vis-à-vis du processus électoral pour que nous ne puissions pas connaître la diminution du taux de participation des populations au processus, tout simplement parce que dans les processus électoraux de 2018, il y avait vraiment des choses qui n'avaient pas bien marché.
Oui, mais alors, comment cette campagne va-t-elle se dérouler?
Merci beaucoup. Cette campagne va utiliser 2 canaux de communication, les médias et de manière très particulière la radio, également les réseaux sociaux. Et le deuxième canal de communication, c'est les contacts en personne. Et nous avons 3 types d'activités. Il y a les activités des conférences, il y a les activités de journée porte ouverte, également des dialogues communautaires. Pour nous, nous pensons que la manière la plus élégante d'instaurer la bonne gouvernance, c'est d'arriver à amener les souverains primaires à être également les acteurs consciencieux devant décider sur qui placer à tel poste de prise de décision. Et en une phrase, nous nous disons un vote utile pour instaurer la bonne gouvernance.
Cela va se dérouler pendant combien de temps?
La campagne vient d'être lancée en ce mois de février. La campagne va se clôturer qu'après qu'il y ait investiture du nouveau président de la République. Nous allons aussi mettre un accent sur l'acceptance des résultats de tous les scrutins à tous les niveaux.
Vous avez énuméré plusieurs activités qui seront exécutées durant cette campagne. Quels moyens allez-vous utiliser en termes de finances et logistique pour parvenir à vos objectifs?
Madame Gulen, il est très impérieux de démontrer d'abord le caractère de la citoyenneté dans cette campagne ici, parce que c'est une campagne, je signale que nous venons de la lancer en format d'une synergie des organisations de la société civile et même des activistes indépendants. Et de ce côté, nous avons que 3 sources d'énergie pour arriver à réaliser toutes ces activités. La première source d'énergie, c'est le volontariat. La deuxième source, c'est l'engagement communautaire. Et enfin, c'est le bénévolat. Alors, s'il y aurait d'autres partenaires qui auront de telles activités et qui voudraient bien s'appuyer sur ce qui est déjà fait ou en train d'être fait, entre autres la CENI et tous les autres partenaires, parce que cette campagne, c'est pour appuyer la CENI.
Peut-être pour finir, hein, c'est seulement la ville de Beni que vous avez ciblée ou vous pouvez aussi aller au-delà, par exemple, en territoire?
Cette campagne, elle n'est pas fermée que pour la ville de Beni. D'ailleurs, il y a déjà des contacts avec certaines autres organisations en dehors de la ville qui ont commencé à solliciter intégrer. Et il y a un protocole de collaboration que nous avons déjà mis en place. S'il y a des organisations de Goma, de Litouri, qui ont besoin de faire partie, parce qu'il est question de rencontrer le plus grand nombre de potentiels électeurs, pour qu'ils soient en tout cas des bénéficiaires de nos messages de conscientisation, pour qu'ils puissent opérer cette fois-ci le choix éclairé des prochains nouveaux animateurs des institutions du pays.
Benjamin Assimoni, nous vous remercions.
C'est nous qui vous remercions.
Merci.
Ainsi s'achève ce journal coordonné par Noëlla Luzitu Kabambi, Polydor Basunga, la mise en onde. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi.